Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Le meilleur de Séances Radio est maintenant sur We Love Cinéma.
Flashback sur Séance Radio.
Le cinématographe permet de projeter les images sur un écran.
Toute l'actu des grands classiques du cinéma.
Bientôt, les films vont être sonorisés.
Flashback avec Antoine Cyr et Antoine Julien.
Je ne sais pas si vous rendez compte de l'aspect grandiose du mélange.
Our first full-length motion picture feature in color opens a whole new world of thrill.
Flashback sur Séance Radio.
Ça, c'est le cinéma.
Dans l'actualité des ressorties du mois de novembre, on parle de Carrie de Brian De Palma, Carnage de Tony Melham, trois courts-métrages de Charlie Chaplin, Apportez-moi la tête d'Alfredo Garcia de Sam Peckinpah, mais nous démarrons cette séquence avec le documentaire de Jean-Baptiste Torret, We Blow It, une exploration désenchantée des années 60-70. We Blow It de Jean-Baptiste Torret dans les salles le 8 novembre est une exploration des désillusions de l'Amérique, filmée dans un somptueux cinémascope aux quatre coins du pays. Le critique et historien du cinéma est parti prendre la route à la rencontre des électeurs de Trump et ceux qui ont vécu le bouleversement des années 60 et 70. Parmi eux, certains cinéastes phares comme Michael Mann, Paul Schrader ou Bob Rafelson.
I do think those of us who were raised in the 60s and 70s were raised at a time of an awakening.
We thought that we could change the world.
Bad is good, good is bad, straight is bad, unstraight is good. Those are the values that we believed in.
There are questions that were unique to the 60s.
And the moment a society turns to artists for answers, they're going to have great art.
People remember the way Reagan behaved. He would hug the flag, he would kiss the flag. He loved America. And Donald Trump does too.
Jean-Baptiste Torret, bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous dans Flashback. Alors, ce qui frappe quand on voit votre film, je trouve, c'est sa dimension cinématographique qui est quelque chose de vraiment rare dans un documentaire. Était-ce une volonté dès le départ ou est-ce que c'est venu au fur et à mesure du tournage ?
Oh non, ça a été, je pense, une volonté dès le départ. Enfin, d'autant plus que, enfin, à titre personnel, moi, quand je faisais de la critique ou des livres, ou même si je continuerais sans doute à en faire, la distinction pour moi entre le documentaire et la fiction n'a jamais vraiment existé. J'ai toujours pensé que c'était quelque chose d'extrêmement ténu, puisqu'il y a des moments de fiction dans des documentaires, et même on fait parfois de la fiction quand on fait du documentaire, parce qu'on sélectionne, on choisit des choses, et qu'il y a des moments de, tout simplement, de documentaire dans de la fiction. Je pense à des films comme Personne de la colère, de John Ford, ou à tous les films des années 70 qui nous documentaient, à mon avis, aussi bien sur l'Amérique de l'époque, beaucoup de livres ou d'essais ou d'ouvrages qu'on pouvait lire. Donc pour moi, la distinction a jamais été vraiment pertinente. Et puis dès lors que, voilà, moi je suis un grand admirateur du cinéma américain, évidemment, et pour moi le cinéma américain et l'Amérique, c'est un endroit qu'on filme en cinémascope. Donc j'avais envie en fait d'avoir des moyens et d'avoir une approche qui soit strictement cinématographique pour aller là-bas. Donc c'est quelque chose qui a été fixé pour le coup très très tôt.
Mais alors, jusqu'à recréer certains moments de l'histoire américaine, je pense notamment à cette scène où vous recréez en quelque sorte l'assassinat de JFK à Dallas avec ce plan en voiture qui
avec
reprend...
Avec mes petits moyens, je la recrée.
Oui, bien sûr.
Oui, c'est vrai.
Bien
oui.
Sûr, mais qui reprend quand même, c'est l'idée. Hein. Le même chemin parcouru par le président en 63. Ça, c'est là encore, c'est quelque chose qui s'improvise là, à Dallas ce jour-là, ou c'était
non,
une
pas
idée...
Du tout. Mais, en fait, vous savez, je préférerais dire plutôt que dire c'est un documentaire ou un film de fiction. J'ai plutôt approcher le film en me disant que c'était un film dont la matière est documentaire. ça veut dire que le film était écrit à 70-80%, et évidemment les charmes du documentaire, parce que c'est le moment où le réel s'invite dans votre film, et ça il faut surtout pas le refuser, il faut plutôt l'accueillir et voir ce que vous allez en faire. La question centrale pour moi, c'est que quand vous posez votre caméra aux États-Unis, que vous le vouliez ou non, et presque à votre corps défendant, des centaines de films ou de fantômes de films sont présents. C'est très très particulier de ce point de vue-là. C'est-à-dire que même si j'avais voulu ne pas faire de référence, ne pas évoquer certains films ou autres, de toute façon, ces films-là auraient surgi dans mon propre film. Donc moi, j'avais au contraire envie que le cinéma, qu'il n'y ait pas d'extrait de film sauf un. Donc en fait, qu'il soit a priori nulle part, mais qu'au fond, il soit partout. J'avais très envie qu'il soit présent, non pas sous la forme d'extrait, mais sous la forme un peu de fantôme, de rappel comme ça, ou que ce soit un cadrage. Par exemple, c'est la séquence de JFK, donc l'assassinat de Kennedy à Dallas. À ce moment-là, il y a la musique d'un film magnifique qui s'appelle « À cause de l'assassinat de Pakula 74 », que je mets à ce moment-là. C'est-à-dire qu'en plus, l'écart entre ce moment qui est une sorte de moment présent et ce que ça deviendra par la suite m'intéressait. Parce que moi, je voulais surtout faire en fait un film sur le devenir des années 60-70, mais depuis aujourd'hui. Je voulais pas faire un film d'histoire, je voulais plutôt faire un film rétrospectif. Comment se fait-il que les années 60-70 en fait restent aussi présentes aujourd'hui? On a le sentiment que c'est un peu notre frontière romantique. Il me semblait que ça parlait autant de la période, qui est sans doute plus complexe que celle que l'histoire un peu officielle a peu à peu fabriquée, et ça parlait aussi de notre présent, parce que je me disais, qu'est-ce que c'est que cette époque dans laquelle on vit, qui semble totalement obsédée, hantée par les années 70.
Alors en effet, il n'y a qu'un seul extrait de film dans We Blew It, c'est celui de Easy Rider, avec cette fameuse réplique lancée par Peter Fonda à la fin du film, We Blew It. C'est cette image-là qui a tout déclenché dans votre processus créatif, ou voilà, c'est un symbole, disons.
Oui, enfin, pour être tout à fait honnête, moi, disons que ça fait un peu plus de 20 ans d'un point de vue strictement, j'ai envie de dire, professionnel, même si j'aime pas ce mot quand on travaille sur le cinéma, parce que le cinéma est quelque chose de l'ordre de la contrebande, de la passion, vous voyez, c'est quelque chose de l'ordre de l'autodidacte. Mais moi, ça fait une vingtaine d'années que je travaille sur le cinéma américain, que j'écris sur le cinéma américain, que j'en parle, que je vais là-bas, que je rencontre des cinéastes, etc. Avec, c'est vrai, les années 60-70, ça a été pour moi une sorte de phare, à partir duquel j'ai abordé l'essentiel du cinéma américain avant et après, et même l'essentiel de l'histoire de l'Amérique. Et moi, la question qui m'a toujours frappé, travaillant depuis longtemps sur cette période-là, c'était un drôle de sentiment que c'était un cinéma. En fait, c'était une nouvelle génération de cinéastes, d'acteurs, de réalisateurs, qui en 69, c'est la date à laquelle est réalisé Easy Rider, en fait, ont le sentiment d'arriver un peu trop tard. Si on considère par rapport à l'histoire de la littérature ou celle de la musique. 69, c'est déjà un peu tard. Et cette phrase de Peter Fonda à la fin de Easy Rider, qui d'ailleurs est un peu improvisée sur le tournage, m'a toujours semblé énigmatique. Comment se fait-il que, alors que le Hollywood va être d'un seul coup envahi et dirigé par une bande de nouveaux auteurs formidables pendant 10 ans, au tout début de ce mouvement-là, il y a quelqu'un, il n'est pas le seul, on pourrait citer Alice's Restaurant d'Arthur Penn par exemple, il y a quelqu'un qui déjà prophétise la fin, ou en tout cas qui nous explique que ce qui arrive est une décennie mort-née. Et il me semble que c'est une clé capitale, hein, cette idée d'un mélange à la fois d'énergie et de mélancolie, à la fois d'illusion et de désespoir en même temps. Je pense que c'est vraiment l'humeur des années 70. Et ce « we blew it » qui veut dire « on a tout foutu en l'air, on a merdé », qui est une expression qui est très usuel aux États-Unis, me semblait un bon point d'entrée en fait dans le film. C'est une question que je voulais me poser. C'est pas du tout une affirmation. Hein. C'était pas du tout. J'avais envie de faire le contraire d'un film à thèse. Je voulais pas démontrer pendant 2h15 pour quelle raison on avait tout foutu en l'air. C'est une question que j'avais envie de soumettre aux gens qui avaient vécu, qui avaient survécu à cette période. Et d'ailleurs, ce titre provoquait souvent des réactions assez mitigées, assez violentes de la part des intervenants, qu'ils soient cinéastes ou américains ordinaires. Mais en tout cas, ça débloquaient systématiquement leurs paroles. Parce que certains me disaient « Non, pas du tout, on n'a pas tout foutu en l'air. » D'autres, au contraire, disaient « Oui, absolument. » Et à partir de là, en fait, pour moi, le film se construisait.
Alors, de votre part, ça m'a un petit peu surpris. On pouvait s'attendre vraiment à un film sur le cinéma de cette époque. Et finalement, vous en avez un peu parlé tout à l'heure, vous l'évoquez assez peu, avec des réminiscences. On entend à un moment donné la musique de David Shire de Conversation secrète. Il y a comme ça quelques éléments. Mais vous avez une visée beaucoup plus large. Vous parlez de politique, vous parlez de l'Amérique aussi d'aujourd'hui. Vous interrogez le mythe de cette époque, hein, qui est béni par certains, voire on a parfois un peu l'impression idéalisé. Cette exploration au sens large, c'était dans votre projet.
Oui, vous savez, il y avait un peu deux solutions en fait pour moi, dans la mesure où c'est là, disons que je bouclais une sorte de premier cycle, de vie, de critique, etc. La première solution qui était la plus confortable, ça aurait été de faire en gros un film sur le cinéma américain dit des années 70, le nouvel Hollywood, pendant deux heures et quart. Il se trouve qu'on est en 2016-2017, qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites. Moi-même, j'ai écrit des livres là-dessus, donc j'avais pas envie de refaire en film des choses que j'avais pu écrire ou lire. Première chose. Donc, il était hors de question pour moi de faire un documentaire sur le énième documentaire sur le cinéma américain des années 70. La deuxième chose, c'est que et c'est ce que dit un peu Paul Schrader à la toute fin du film, lorsqu'il explique que la raison pour laquelle ce cinéma-là ou cette époque-là a été un âge d'or, pourquoi on le considère aussi encore aujourd'hui comme un âge d'or, c'est pas tant, en tout cas c'est son point de vue, c'est pas tant parce que les films étaient bien meilleurs, c'est pas tant parce que les réalisateurs étaient plus talentueux ou plus doués, c'est parce qu'à l'époque, le public, les spectateurs attendaient en fait des réponses, se posaient des questions sur la société, le monde, le couple, etc. et qu'ils allaient au cinéma dans l'espoir que les films allaient leur apporter des réponses. C'était une époque où le cinéma était très important, où ça comptait énormément pour les gens. Et on parlait de politique, on parlait de films dans le même mouvement. Et d'une certaine façon, moi j'ai adoré le cinéma 15 et 70. Il me semblait qu'il parlait à la fois de cinéma et de l'Amérique en même temps. C'est-à-dire que raconter les films, c'était raconter l'Amérique en même temps. Et au fond, moi je me suis dit, c'est ça que j'allais faire. C'est que vous dites effectivement, il y a peu de cinéma, mais je voulais être conforme à cette idée qu'il y a peu de cinéma quand le cinéma est partout, quand le cinéma est vraiment quelque chose de très important. Aujourd'hui, c'est différent parce que le cinéma a un peu déserté l'espace commun, ça n'intéresse plus grand monde le cinéma, à part évidemment une centaine de milliers de cinéphiles, etc. Mais l'honnête homme, au sens de Robert Musil, n'est plus intéressé par le cinéma, il l'est par les jeux vidéo, par les séries télé, par plein d'autres choses, etc. Donc j'avais aussi envie de me mettre dans la peau de cette époque où c'était pas la peine de montrer un extrait de film pour se dire qu'on parlait de cinéma. À l'époque, le cinéma était vraiment très très important, était au cœur de la vie des gens, des débats, il y avait des débats critiques, c'était un véritable enjeu. Les cinéastes étaient vraiment dans la cité au sens propre du terme, et j'avais envie de faire ça, et pas de me dire, il y a une partie du film qui concerne le cinéma et l'autre qui concernerait l'Amérique et une autre la politique. Les élections 10, tout ça est pris dans un même mouvement. Raconter l'un, c'est raconter l'autre. Et c'est qu'à partir du début des années 80 que le cinéma a commencé à rentrer dans sa case, qui sera un peu le divertissement, la culture, et puis à côté la politique, à côté la société, et ce qui est d'ailleurs un véritable problème. Mais dans les années 70, il n'y a pas ces frontières-là. Et donc, à titre personnel, j'avais très envie de me poser la question sur les années 60-70, est-ce que c'était devenu, à travers évidemment le cinéma, mais à l'époque, le cinéma et l'Amérique se confondent. Et donc, j'ai pas du tout éprouvé le besoin d'avoir des extraits de films, puisqu'il me semblait que, en fait, le cinéma était au fond partout.
C'est une exploration, en effet, qu'il faut vraiment découvrir dans les salles le 8 novembre, donc la sortie de We Blew It de Jean-Baptiste Torret. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.
Merci à vous.
Dans l'actualité, sinon, de nombreuses ressorties, comme à l'accoutumée, à commencer par celle de Carrie, de Brian De Palma, qui est ressortie en version restaurée le 1er novembre. L'histoire, bien connue maintenant, d'une jeune femme fragile, souffre-douleur de son lycée, qui va se découvrir un étrange pouvoir surnaturel. Alors, interprété évidemment par Sissy Spacek dans le rôle titre, Piper Laurie et John Travolta dans l'un de ses premiers rôles. C'était à l'époque, en 1976, la première adaptation d'un roman de Stephen King. Alors une scène bien sûr devenue culte, l'affiche du film même, où Sissy Spacek est aspergée de sang, tournée au ralenti, et puis ses coups stridents de violon à chacun de l'apparition de ses pouvoirs, signés du compositeur Pino Donaggio, qui font référence bien sûr à ceux de Bernard Herrmann dans Psychose, car De Palma voulait à l'origine engager Herrmann pour la partition de ce film, mais il mourra quelques mois avant le début du tournage. Une interprétation mémorable, bien sûr, de Piper Laurie dans le rôle de la terrifiante mère intégriste et fanatique de Palma, où l'art de surprendre le spectateur, transformant une scène de douche quasi publicitaire en un très grand moment d'effroi.
It's the night of the senior prom. The Bates High School gym is alive with excitement. And everybody is there. Even Carrie White. The girl no one likes.
We're all sorry about this incident, Cassie.
It's Carrie!
And everyone makes fun of her. The girl who lives in that creepy house with her crazy mother.
Help the sinning woman see the sin of her days and ways. Show her that if she had remained sinless, the curse of blood would never have come on her.
The girl with the strange power.
If I concentrate hard enough, I can move things.
On ne change pas de registre avec Carnage de Tony Melham, réalisé en 1981, qui lui aussi est ressorti le 1er novembre en version restaurée. Ça se passe dans une colonie de vacances. Une bande d'ados décide de se venger de leur moniteur sadique, mais la farce tourne mal et l'homme est gravement brûlé. Il décide de se venger à son tour, mais pas tout à fait de la même manière. Alors c'est un film dans la lignée d'Halloween et Vendredi 13, sorti juste après. Il appartient à cette série, cette lignée même de slasher des années 80, avec toujours cet effroyable croque-mitaine qui veut en zigouiller un très grand nombre. On retient surtout les maquillages de Tom Savini, particulièrement gore pour l'époque. Je préviens, pour les amateurs de gore, années 80, c'est un film pour vous. Mais le film ne sort pas vraiment du lot. À noter, et ça je ne peux pas ne pas le dire, qu'il s'agit de la toute première production d'Harvey Weinstein, ce qui n'est plus vraiment aujourd'hui le meilleur argument promotionnel qui soit. Les admirateurs de Charlie Chaplin, et ils sont très nombreux et on en fait partie, seront ravis de redécouvrir dans les salles le 8 novembre trois courts-métrages réalisés par le maître, le boxeur, Charlot Vagabond, tous deux réalisés en 1915, et Charlot S'évade, réalisé en 1917, tourné à l'époque pour la compagnie Esney. Alors c'est selon moi très clairement Charlot S'évade qui est le plus accompli, celui qui recèle le plus de trouvailles comiques et étonne encore par son sens de la chorégraphie, film dans lequel il développe son personnage immortel de vagabond. Ces films précèdent évidemment les grands films, les grands longs métrages muets qui suivront. À noter que ces trois longs métrages sont accompagnés par la musique de Robert Israël. Enfin, on termine cette partie ressortie avec le film de Sam Peckinpah, Apportez-moi la tête d'Alfredo Garcia, réalisé en 1974, qui ressort le 22 novembre en version restaurée. L'histoire d'un riche propriétaire foncier qui offre une rançon d'1 million de pesos à qui lui ramènera la tête de celui qui a mis enceinte sa fille. Un minable pianiste de bar américain, attiré par la prime, se lance alors à sa poursuite. C'est après l'échec de Pat Garrett et Billy Lee the Kid que Peckinpah entreprit le tournage de ce film. Il s'était bien sûr fait connaître auparavant avec La Horde Sauvage ou Les Chiens de Paille. En rupture avec Hollywood qu'il boycotte, Peckinpah décide de poser sa caméra au Mexique. Après avoir proposé le rôle principal à Peter Falk, qui décline à cause de la série Columbo, il choisit Warren Oates, qui figurait déjà au casting de nombreux films du cinéaste. Le cinéma de Peckinpah, c'est un cinéma brut, graphique, nihiliste, aux accents baroques, parsemé d'éclairs de violence, qui font de lui l'un des plus importants contrebandiers d'Hollywood. Apportez-moi la tête d'Alfredo Garcia, sans doute son film le plus personnel, qui marque l'aboutissement de sa carrière.
Bring me the head of Alfredo Garcia.
We are looking for an old buddy of ours.
His name is Alfredo Garcia. Maybe you could help us find him.
Son of a bitch. You got me. All ever required from you is physical proof that Garcia is dead.
I'm going to find you.
Alfredo Garcia. He was here and we spent some time together. We were saying goodbye.
Flashback sur Séance Radio.
Le cinématographe permet de projeter des images sur un écran.
Toute l'actu des grands classiques du cinéma.
Bientôt, les films vont être sonorisés.
Flashback avec Antoine Cyr et Antoine Julien.
Je ne sais pas si vous rendez compte de l'aspect grandiose du mélange.
Our first full-length motion picture feature in color opens a whole new world of thrill.
Flashback sur Séance Radio.
Ça, c'est le cinéma.
Retrouvez l'ensemble des contenus Séance Radio proposés par We Love Cinéma sur tous vos agrégateurs de podcasts.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods
for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.